Me kesepastil. Oh, me kesepas.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouvelles du monde pour le jeudi 4 avril. Antoine au micro. Aujourd'hui, on va voyager un petit peu puisqu'on ira faire un tour en Turquie et prendre des nouvelles des résultats des élections municipales qui se sont mal passées pour le Raïs Erdogan. Un petit tour au Brésil aussi où Emmanuel Macron a été signé des contrats certainement pour du nucléaire français. Et on va aussi parler pas mal des PFAS, ces fameux polluants éternels. On commence à en parler beaucoup et c'est tant mieux. Une proposition de loi sera à l'étude aujourd'hui justement pour tenter de limiter leur fabrication. Mais avant tout cela, quelques nouvelles de loi qui concernent justement les grèves. Tiens, et avec l'approche des Jeux Olympiques, ça n'est certainement pas fortuit. C'est sur le site lepoint.net, le point avec un G à la fin, qu'on retrouve cette petite brève. Et d'ailleurs, si vous vous abonnez sur Facebook, à leur fil, vous aurez régulièrement des infos. Une proposition de loi, donc, vise entre autres à interdire les grèves dans les transports publics 30 jours par an. Et oui, cette loi a été adoptée en commission de l'aménagement du territoire par les sénateurs, mais elle doit passer encore en séance publique le 9 avril. C'est une proposition de loi qui a été déposée le 14 février dernier, hein, joyeux Saint-Valentin, par le président du groupe Union Centriste, qui s'appelle Hervé Marseille. Alors, c'est dans les colonnes du Figaro qu'il explique cela, ça n'est pas étonnant non plus. Et cette loi vise donc explicitement les mouvements sociaux indépendants qui se multiplient de plus en plus. Vous vous rappelez de la grève des contrôleurs, par exemple, en Noël 2022 pour la SNCF. Il explique ceci. Avant, les partenaires sociaux dans les transports commençaient par négocier et si les discussions n'aboutissaient pas, cela débouchait sur une grève. Là, des coordinations ou des mouvements nés sur Facebook font grève d'abord pour peser sur les négociations ensuite. C'est visiblement intolérable pour ce président, pour ce député et pour le patronat en général. Donc, ils veulent un petit peu mettre des verrous justement pour assurer au moins 30 jours de fonctionnement donc dans les transports publics. Un autre objectif, c'est évidemment d'assurer le bon déroulement de ces Jeux Olympiques sans avoir à satisfaire les revendications des travailleurs ou travailleuses des transports publics, par exemple. La CGT RATP, donc pour les transports parisiens de métro, a par exemple déposé un préavis de grève qui va du 5 février 2024 à 19h jusqu'au lundi 9 septembre 2024 à 8h. Préavis de grève qui dure, 8 mois. Alors si cette proposition de loi passait, les grèves seraient interdites 30 jours par an aux heures de pointe pour les salariés qui assurent l'exploitation des transports publics. Ça ne prend pas en compte l'avion, mais par contre le train, bus, RER, etc. Si, par exemple, les jours de grand départ en vacances, à Noël, Pâques, le 14 juillet ou le 15 août, ceux-là sont déjà évoqués, se rajouteraient les événements d'importance majeure sur le territoire français, sous-entendez donc les Jeux Olympiques, par exemple, et la fixation de ces jours, s'ils devaient exister, les jours où on ne peut pas faire grève, ferait, en cas d'adoption définitive par la loi, par le Sénat et l'Assemblée nationale, l'objet de discussions entre des syndicats, le ministère des Transports et les fédérations professionnelles. En gros, chaque année, on ferait un espèce d'agenda avec les jours où on n'a pas le droit de faire grève. Cette proposition de loi cherche probablement à éviter au niveau législatif la censure du Conseil constitutionnel et elle mentionne donc pour faire une limite de 7 jours consécutifs de grève interdite, donc on n'aurait pas le droit d'interdire 7 jours de suite, et son non-respect n'entraînerait pas de sanctions pénales mais des sanctions administratives. Autre joyeuseté dans ce texte de loi, qui n'est pour l'instant pas adopté, hein, mais quand même on voit un petit peu le ton, les préavis dormants prendraient fin au bout d'un mois si deux salariés au moins ne sont pas en grève, et le temps de préavis passerait nécessaire pour participer à un mouvement passerait de 72 heures à 48 heures. Les grèves de la SNCF ou de la RATP sont souvent et depuis des décennies en fer de lance des luttes qui visent à défendre ou à conquérir des droits sociaux pour de larges pans de la société française. Si le ministre des Transports lui-même semble sceptique sur cette loi et si l'Assemblée nationale est moins à droite que le Sénat, on va quand même surveiller avec attention le résultat de ces débats qui sera donné. Donc les débats auront lieu et les résultats dans la foulée le 9 avril. Allez, on se remet un petit peu le nez dans ce dossier des polluants éternels. Ça continue de bouger au niveau législatif et sur le terrain aussi. Ce sont tout d'abord les élus écologistes qui sont en ordre de bataille face à ces polluants éternels, les PFAS, pour perfluoré et le reste, je ne sais plus. On va en reparler dans le texte. On commence avec Nicolas Thierry, un député écologiste de Gironde, qui vient de déposer une proposition de loi visant à interdire ces PFAS. Et il explique « Il y a un an et demi, personne ne connaissait ces PFAS. On a réussi à faire entrer le sujet dans le débat public. Plus personne ne nie que c'est dangereux et qu'il faut agir. » Donc ce sont les PFAS, je le rappelle au cas où ça ne vous est pas passé justement dans les oreilles. C'est une famille de composés chimiques toxiques et quasi indestructibles, d'où leur petit nom de polluants éternels. Ils sont présents dans de très nombreux objets du quotidien. Ils servent notamment à fabriquer les revêtements, par exemple des poils ou dans les cosmétiques. Ils ont des propriétés imperméabilisantes, de plein de choses. A priori, l'industrie ne sait plus s'en passer. Il y en a même dans les fringues, etc. Alors, le texte de loi donc, est soumis au vote aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, dans le cadre justement de la niche parlementaire du groupe Les Écologistes. Ce projet a déjà été voté en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire le 27 mars dernier, mais le fait qu'il soit adopté par l'Assemblée nationale n'est pour autant pas assuré. Il y a un fort lobbying en face, vous l'aurez compris, des industriels qui utilisent ces fameux PFAS. Des lobbies très forts, mais aussi des députés très perméables aux arguments des industriels. Mais quoi qu'il arrive, continue ce député écologiste, aujourd'hui, le 4 avril, on ne lâchera pas le combat. Cet élu de 48 ans a fait de cette lutte contre les PFAS son cheval de bataille. Écoutez donc un petit peu son parcours. Bon, pour faire cette loi, il s'est entouré d'une équipe de scientifiques, d'écologistes et de journalistes qui travaillent sur ces PFAS. Il est également soutenu par tous ses collègues écologistes. Avant de revenir sur son parcours, on va refaire un petit tour sur les PFAS. Donc ça veut bien dire les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, c'est de la chimie, hein, et c'est donc les initiales PFAS. Ces molécules sont dotées de propriétés uniques grâce à une liaison carbone-fluor très résistante. Elles sont produites massivement depuis les années 50 et désormais, je vous le disais, utilisées dans tous les domaines de l'industrie. Avec cet avantage, mais aussi du coup cet inconvénient, que ces molécules sont persistantes dans l'environnement et s'accumulent dans le sang avec des effets nocifs avérés sur la santé. On y reviendra un petit peu à la fin de cet article. Donc Nicolas Thierry, le député écologiste, en juin 2023, accompagné de 13 autres députés verts, ils ont fait analyser leurs cheveux à la recherche de ces PFAS et ont présenté leurs résultats au cours d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Ils s'étaient tatoués les bras de pictogrammes, les mêmes pictogrammes qu'on trouve sur les emballages des produits chimiques, hein, tête de mort, poison, etc. Avec ce résultat assez éloquent, hein, 100% des députés qui ont été testés, quel que soit leur lieu de vie, leur mode de vie, sont contaminés au PFAS. Suite à ce résultat, le député a démarré un tour de France pour alerter sur la contamination aux polluants éternels en lançant une campagne hashtag StopPFAS. Vous l'aurez compris, si vous faites vous-même cette analyse, il y a de très fortes chances que vous trouviez aussi dans vos urines ou vos cheveux ces fameux PFAS. Perfluoroalkylé, voilà. Donc ce Tour de France Stop PFAS est passé par Sarlat, Paris, Châteaubriant, Tours. Et à chaque fois, 12 à 15 personnes volontaires viennent justement faire tester leurs cheveux. Et tout cela a permis de prouver un niveau de contamination généralisé dans la population française. C'était pas nouveau parce qu'en 2019, une étude avait déjà révélé cette présence chez 100% des Français. Cette étude avait été menée par Santé publique France. Elle s'appelait Esteban. Mais à l'époque, les pouvoirs publics, les autorités n'avaient pas pris de mesures concrètes à la suite de ces résultats. On est donc à quasiment 5 ans plus tard, avec des scandales qui se multiplient partout sur le territoire, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe. Rumilly en Haute-Savoie, Pierre Bénite dans le Rhône, Salindre dans le Gard, on va y revenir, Anvers en Belgique, Dordrecht aux Pays-Bas. Toutes ces communes ont révélé des contaminations aux polluants éternels dans l'air, dans l'eau et dans le sol. À la suite donc d'une mission de 6 mois qui a été commandée par le gouvernement, c'est le député du Rhône, Cyril Isaac Sibyl, qui a publié au début de cette année un rapport détaillé sur ces fameux PFAS, dont ensuite le député Nicolas Thierry a repris certains éléments pour la proposition de loi qui est étudiée aujourd'hui. On peut lire dans cette proposition de loi l'interdiction de fabriquer, d'importer, d'exporter et de mettre sur le marché des produits contenant des PFAS. Et également, cette loi prévoit d'appliquer une taxe aux industriels pour la dépollution des sites qu'ils auront contaminés. L'objectif, c'est graver dans le marbre un dispositif de pollueur-payeur. Vous l'aurez compris, cette loi menace très directement les intérêts de nombreux industriels encore en activité aujourd'hui. Et ça ne va pas être très simple de la faire passer telle qu'elle à l'Assemblée, mais bon, au moins, le débat aura lieu. Et d'ailleurs, si on continue, le député veut rendre obligatoire immédiatement la détection de ces PFAS dans les analyses d'eau potable partout en France. Parce que pour l'instant, il y a une directive européenne qui est prévue d'ici 2 ans pour forcer ça. Et si on attend 2026, là il y a une petite anguille sous roche, explique ce député, si on attend donc les 2 ans et la directive européenne, eh bien il a peur que l'État ne fasse assumer les coûts de la dépollution aux collectivités locales, puisque vous savez que maintenant, c'est la compétence de l'eau a été déférée aux collectivités locales. Ça semble un petit peu le tour de passe-passe du siècle, ça. Juste au moment où on se met à détecter des PFAS partout dans l'eau, tout d'un coup, ce sont les collectivités qui en ont la charge, et donc les frais de dépollution, par exemple. Ainsi, si on va du côté de Lyon, dans la métropole de Lyon, qui est très très industrialisée, cette métropole est dirigée par l'écologiste Bruno Bernard, eh bien, on est déjà confronté à un tel scénario. Une enquête a révélé il y a 2 ans une contamination massive au PFAS dans toute la vallée de la chimie, on est au sud de Lyon, en mettant principalement en cause les 2 gros industriels Arkema et Daikin, c'est japonais. L'ARS, l'Agence régionale de santé, demande d'ailleurs désormais aux collectivités concernées par une eau contaminée et aux syndicats des eaux de présenter au plus vite des mesures pour revenir à une eau conforme. Mais bon, tant que les usines continueront à polluer, a priori, les collectivités, c'est pas magique non plus. Ils sont très difficiles à filtrer, ces fameux perfluorés. D'ailleurs, c'est Anne Gros-Perrin, qui est vice-présidente de la métropole de Lyon et chargée de l'eau, qui s'en indigne. L'ARS nous met en demeure de produire des plans d'action, mais elle ne mentionne à aucun moment la responsabilité du pollueur, ni l'application du principe pollueur-payeur, et encore moins celle de l'État. C'est comme si nous étions responsables de cette pollution. Le 19 mars, si on reste sur Lyon, c'est ce qui est la plus grande collectivité de France d'ailleurs, est dirigée par des élus écologistes. Eh bien, Lyon a assigné en référé expertise les 2 entreprises, Arkema et Daikin, devant le tribunal judiciaire de Lyon, justement afin que soit évaluée leur responsabilité dans la pollution de l'eau. Le géant français de la chimie et la société japonaise qui sont installées sur la plateforme industrielle de Pierre Bénite utilisent en effet et rejettent des composés perfluorés dans l'environnement depuis des années. D'ailleurs, il y a un autre article auquel vous pouvez accéder si vous le souhaitez, qui explique justement en détail ce qui se passe du côté de l'usine Daikin, là, ce géant japonais de la chimie. Il aurait rejeté dans l'air des concentrations de PFAS jusqu'à 1800 fois supérieures à la réglementation. En 2022, l'industriel a d'ailleurs ouvert une extension de son site, toujours à côté de Lyon, où est utilisé du bisphénol AF, un additif qui est controversé, c'est le mot est léger. Tous ces articles, je les ai trouvés sur Mediapart, qui fait un gros dossier là-dessus en ce moment. Face à la pollution d'ampleur qui a été découverte donc au sud du territoire de la métropole de Lyon, eh bien celle-ci a lancé, courant de l'année dernière, une grande étude d'imprégnation humaine au PFAS dans cette vallée de la chimie, pour savoir un petit peu ce qu'il en était justement des impacts sur la santé. Cette étude est menée par l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, et ça sera la première étude française de biosurveillance humaine en polluants perfluorés chez les riverains des industries. Pas loin de là, un peu plus au nord, c'est à Grenoble que le 22 mars, le maire de la ville, Éric Piolle, a annoncé lui aussi avoir engagé 3 procédures judiciaires en lien toujours avec la pollution des eaux superficielles et des nappes phréatiques de l'agglomération. Et là, il vise en particulier les plateformes chimiques de Jarry et de Pont-de-Claix, on est en Isère, qui sont ou seraient très majoritairement responsables de ces émissions de polluants qui ont été découverts dans l'eau potable. Et pour terminer un petit tour de France, vous voyez qu'on est deux en vallée du Rhône, et on continue, on arrive dans le Gard, hein, juste à côté de chez nous, sur la commune de Salindres. C'est en effet à Salindres que se trouve une des 5 usines qui produit et qui utilise ces composés, et certainement cause de nombreux cas de cancer au niveau local. Il faut remonter au 6 février dernier de cette année, c'est l'association Génération Future, ainsi que le journal Le Monde, qui publie ensemble un rapport et une enquête sur l'usine chimique Solvay, qui est donc située à Salindres dans le Gard. Et il y a deux cours d'eau qui, autour de cette usine. Les cours d'eau s'appellent l'Arias et la Veine. Des mesures ont été effectuées par cette association et on a trouvé des taux extraordinairement élevés de PFAS, jusqu'à 7,6 millions de nanogrammes par litre. Pour le TFA, c'est l'acide trifluoroacétique qui est fabriqué donc par l'usine et donc dans les rejets qui se retrouvent dans les rivières. Et pour ce qui est des maladies, eh bien, le même jour, justement, un rapport de Santé publique France confirmait qu'on trouvait à Salindres et à Rousson, une commune juste à côté, 3 fois plus de cas de glioblastome que ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors évidemment, le rapport de Santé publique France précise qu'aucune cause n'a été identifiée. Bon, le fait qu'il y ait une énorme usine en pile entre ces deux communes, ça semble, c'est évidemment une cause possible, mais après, de là à prouver les choses scientifiquement, c'est là-dessus que jouent très souvent, justement, les experts juridiques qui défendent les industriels. Localement, en plus, l'usine, elle fait quand même bosser beaucoup de monde. Hein, élus et autorités locales jalouses de cette activité économique dans un bassin où le chômage fait rage depuis la désindustrialisation. Et ainsi, au lendemain de la publication de rapports de Génération Future, de l'Enquête du Monde et de Santé publique France, les maires des communes de Salindres et de Rousson, ainsi que le président de Alès Aglo, tous les trois ont organisé une conférence de presse en catastrophe pour essayer de rassurer la population. Et le président de l'Aglo tempêtait en disant « Je serai en tête du cortège à manifester pour fermer l'usine de Salindres s'il y avait de tels problèmes de santé publique. » Mais ce n'est pas le cas. Bon, visiblement, les rapports de Santé publique France, pour lui, ne sont pas du tout probants. L'ARS, elle, de son côté, indique que le site industriel fait l'objet d'une surveillance environnementale et sanitaire depuis de très nombreuses années. Une réponse dans la même veine que celle de l'usine, d'ailleurs. L'usine Solvay indique qu'elle est parfaitement en ligne avec la réglementation en vigueur. La préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs et de nos riverains demeure la priorité absolue de l'entreprise. Ce que confirme d'ailleurs l'association Génération Future. Hein. En effet, l'usine est dans les règles, mais c'est pas difficile, tellement justement les limites de rejet qui sont fixées par arrêté préfectoral sont hautes. Charge donc aux riverains aujourd'hui de prouver les pollutions et de mesurer la pollution de leurs espaces de vie, hein, maison, eau, air, école, terre des potagers qui entourent aussi cette plaine. C'est surtout pour eux l'absence d'informations claires ou le manque de prise en charge par l'État et les autorités sanitaires qui les blessent, eux dont les proches, pour le coup, souffrent vraiment de ces fameux glioblastomes et dont les enfants grandissent sur ces sols hautement pollués. D'ailleurs, c'est sur le site Reporter que vous pourrez aussi trouver cet article sur Salindres et lire, si vous le souhaitez, en détail les trajectoires de 3 témoins directs de cette pollution à des malades ou des gens dont les proches sont malades. Ils sont soit en colère, soit dépités face à la situation, mais entendent bien en tout cas être entendus par les autorités. Tout ça pour dire que l'association Génération Future et tous les écologistes soutiennent donc vigoureusement la proposition de loi qui est examinée aujourd'hui par les députés à l'Assemblée nationale. Et elle viserait à interdire dès 2026 la présence de ces PFAS dans les ustensiles de cuisine, les vêtements, les cosmétiques et par exemple le phare des skis. Loi, donc, je vous rappelle, dont l'adoption est quand même très conditionnée face aux réserves du camp présidentiel qui est fortement sous la pression des industriels.
C'était vraiment très intéressant.
Allez, je vous emmène un petit peu en Turquie, voir ce qui s'est passé depuis le pire revers électoral qu'a connu le président Erdogan suite à ces élections municipales qui sont clôturées donc ce dimanche soir. Moins d'un an après être parvenu à se faire réélire, c'était en mai 2023, au présidentiel, donc à la tête de la Turquie, contre un candidat qui avait été désigné par 6 partis d'opposition à l'époque, eh bien le président Recep Tayyip Erdogan a subi ce dimanche 31 mars, au cours de ses élections municipales, le pire revers politique qui lui était infligé depuis son arrivée au pouvoir en 2022. 2002, pardon, n'importe quoi, ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. C'est le premier parti d'opposition, en effet, le Parti Républicain du Peuple, le CHP, qui est une formation plutôt à tendance laïque, héritier des militaires qui ont tenu le pays pendant très longtemps. Eh bien, ce premier parti d'opposition a devancé donc l'AKP, le parti présidentiel, parti de la justice et du développement. Au nombre de voix, le CHP a totalisé 37,7% des suffrages exprimés contre 35,5% pour l'AKP, donc 2 bons pourcents d'écart. Et ainsi, non seulement l'opposition conserve les mairies des grandes villes que sont Istanbul et Ankara, la capitale, mais elle a en plus conquéri un nombre, grand nombre d'autres villes, ou a confirmé un score en tout cas, dans des villes et villages qu'elle n'avait pas réussi à conquérir jusque-là, y compris justement des bastions de l'AKP. Donc je vous ai cité Istanbul, Ankara, mais aussi Izmir, Bursa, Antalya pour les grandes villes. Toutes ces villes restent aux mains de l'opposition, qui accroît en plus nettement tous ses scores. Et à Istanbul, le maire sortant, Ekrem İmamoğlu, dont l'élection en 2019 avait été très contestée par Erdogan, inflige là un camouflet à son adversaire avec un retour assez en fanfare. Son adversaire s'appelle Murat Kurum et il y a plus de 10 points d'écart entre les deux, et donc ça fait 1 million de voix. Pareil à Ankara, où c'est le candidat de l'opposition Mansour Yavaş qui a obtenu 60% et près du double du représentant de l'AKP. Donc un vote vraiment punitif contre l'AKP, et certainement en partie à cause justement du vote de sa base. Pour ce qui est d'Istanbul, il a été, je vous le disais, İmamoğlu a été réélu avec une large avance sur son adversaire, et il fait de fait figure de solide candidat à la présidentielle de 2028. C'est un peu le candidat de l'opposition qui monte et qui semble rallier avec lui toutes les oppositions. Ce désaveu au niveau des urnes est sévère pour Erdogan, un leader dont l'exercice du pouvoir a pris un tour tellement autoritaire ces dernières années qu'il ne semble d'ailleurs même pas préparer sa succession, alors que théoriquement, il est censé passer la main en 2028. Bon, chance pour lui, il n'y a pas d'autres élections nationales prévues, que ce soit législatives ou présidentielles, avant 2028. Il a donc le temps de préparer une stratégie de contre-attaque, mais c'est pas gagné. À 70 ans, en effet, le chef de l'État a paru accuser le coup dans le discours qu'il a prononcé très tard ce dimanche soir après l'annonce des premiers résultats. Il a reconnu que son parti avait perdu de la hauteur et qu'il devrait analyser courageusement le message des électeurs. Il a d'ailleurs déclaré voir dans ce message un tournant, mais un tournant vers quoi ? C'est le président s'est bien gardé de le dire. De l'avis de la plupart des commentateurs, la très mauvaise situation économique du pays, puisqu'on a une inflation qui a atteint les 80% en fin 2022 et qui était encore à 67% en mois de février, la hausse du coût de la vie qui en a résulté, donc explique tout cela en partie le verdict de ses électeurs. L'état des finances publiques et la corruption locale ne permettent plus au parti de l'AKP de distribuer autant ses largesses à ses électeurs, ce qui a fait son succès dans son arrivée au pouvoir et son maintien. Ces facteurs ont donc sans doute incité les électeurs mécontents de l'AKP à rester chez eux. C'est ce que laisse deviner notamment la baisse de participation générale à ces élections. Donc pour ce qui est de l'abstention, a priori des électeurs de l'AKP, ce sont ces électeurs qui ne sont pas allés voter ou alors même qui ont donné leur voix à d'autres partis. Et cela alors que l'opposition a, elle, réalisé un score assez similaire à celui de l'année dernière. Donc c'est plutôt de manière proportionnelle qu'ils ont progressé. L'abstention aussi est plus importante que d'habitude, ce qui est une forme de protestation en soi. Et certains de ces électeurs semblent être passés chez le camp d'autres candidats d'opposition. Par exemple, un nouveau petit parti islamiste qui était anciennement allié du parti d'Erdogan, qui s'appelle le Yeniden Refah Partisi, un parti islamiste et anti-occidental. Il a d'ailleurs fait des beaux scores en dépassant même le MHP, qui était aussi un parti situé très à la droite de l'échiquier politique, et a gagné quelques villes en Anatolie. De plus en plus de ces partis d'opposition prennent leur envol. Le parti DEM, ancien CHP qui est à tendance pro-kurde, s'est imposé sans surprise dans les principales municipalités de l'est du pays, où vit une partie de la population kurde. Et hormis donc ces causes sur l'opposition, ce qui a certainement conduit aussi à cette condamnation électorale de l'AKP, c'est des accusations d'affairisme, avec notamment en ligne de mire le conflit israélo-palestinien, qui joue très fort en ce moment dans le climat politique du pays. C'est une analyse de Élise Massica, qui est politiste chercheuse au CNRS et Sciences Po, qui l'expliquait à France Info. Elle dit qu'il faut savoir que l'opinion publique turque soutient massivement la cause palestinienne et reste très critique des politiques d'Israël. Erdogan s'est publiquement fait le porte-voix de cette opinion, comme la plupart des forces politiques en Turquie. Des manifestations massives de soutien à la Palestine sont organisées régulièrement dans les villes turques. Cependant, des liens, notamment commerciaux, persistent entre Israël et plusieurs proches et soutiens influents d'Erdogan. Ces proximités ont été dénoncées de manière extrêmement virulente et ont servi de prétexte pour critiquer l'affairisme et une certaine hypocrisie du parti présidentiel, l'AKP. L'affaire a justifié une prise de distance des milieux conservateurs et religieux avec Erdogan, auquel il essaye pourtant normalement de s'adresser. Et voilà, on termine le bilan donc de ce fiasco électoral avec la conclusion d'un article signé Dorothée Schmitt sur le site de l'IFRI, l'Institut français de recherche internationale, et elle est spécialisée justement dans la situation turque. Elle dit « Le raté d'Istanbul », à savoir que la ville d'Istanbul a été perdue par Erdogan et même certains de ses quartiers dont il était normalement sûr d'avoir l'électorat. Le raté d'Istanbul démontre l'usure du système Erdogan. Usure programmatique, l'AKP, qui a révolutionné la Turquie sur bien des points, n'a plus grand-chose à proposer aujourd'hui. Usure de l'équipe, le président resserre sa communauté autour de lui sans désigner clairement de successeur. Son candidat à Istanbul, Murat Kurum, était un apparatchik sans envergure, ancien ministre de l'urbanisation. Et alors que le scandale des toutes les malfaçons dans le BTP est loin d'être éteint suite au tremblement de terre, il n'est donc pas un super candidat. Usure enfin de la ficelle nationaliste. Si les partis turcs ne parviennent toujours pas à intégrer la perspective kurde dans leur programme, l'électorat kurde d'Istanbul ne s'y trompe plus. Leur premier adversaire reste bien Erdogan. En effet, il avait réussi à s'allier une partie des votes kurdes dans les élections précédentes. Et enfin, dans les colonnes du Monde, on s'interroge sur la stratégie à venir pour les années qui viennent, justement avec ces élections de 2028 en horizon. Ils titrent, eux, un Reis en bout de course. Reis, c'est un terme qui est utilisé là-bas pour se moquer d'Erdogan, qui fait référence un petit peu à ses ambitions d'être un sultan. Monsieur Erdogan devrait logiquement maintenant donner la priorité à l'amélioration de la situation économique de ses concitoyens. Son idée de réforme constitutionnelle qui aurait pu lui ouvrir la voie à un troisième mandat semble pour l'heure reportée. Il pourrait aussi se concentrer sur la politique extérieure en poussant le rapprochement avec les États-Unis. Il faut espérer qu'il ne cherchera pas à détourner l'attention de ses problèmes en redoublant de répression à l'égard des Kurdes pour flatter les nationalistes ou même en intervenant de nouveau dans le nord de la Syrie. Or, les bombardements qui ont été menés ce lundi par l'aviation turque sur des positions kurdes dans le nord de l'Irak sont à cet égard de très mauvaise augure.
Une dictature, comme vous y allez. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
Des nouvelles du monde.
Comme OSS 117, on va faire un petit tour au Brésil. D'importants partenariats énergétiques ont en effet été signés, enfin noués en tout cas, entre Macron et le président Lula lors de la visite du président français au Brésil. La France lorgne notamment sur l'uranium brésilien, une ressource abondante et encore très peu exploitée. C'est le journal Reporter qui nous rapporte ceci dans ses colonnes. Entre le plan d'investissement de 1 milliard d'euros pour la protection de l'Amazonie et la Légion d'honneur attribuée au chef Raoni, figure de la lutte contre la déforestation et de la protection des peuples indigènes, Emmanuel Macron a donc profité de son voyage au Brésil, qui a eu lieu du 26 au 28 mars, pour soigner son image écologique. Après malgré tout avoir soigneusement évité les revendications des autochtones de Guyane quelques jours plus tôt, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Mais derrière les photos donc avec le président brésilien Luiz Lula da Silva, la visite en terre brésilienne a également été l'occasion de conclure de juteux contrats énergétiques, notamment, je vous le disais, dans le domaine de l'uranium. Avec 280 millions de tonnes de ce minerai encore enfoui dans ses sols, le Brésil disposerait de la 8e plus grande réserve d'uranium du monde, voire, selon des experts, peut-être même de la 5e. Selon les informations de CNN Brésil, cet accord, qui n'est pas encore officialisé, prévoit donc une collaboration entre les services géologiques brésiliens et français pour la recherche et l'exploitation de ce minerai. Au mois de décembre dernier, l'ambassadeur français avait déjà signé un accord de principe sur un investissement de 3 milliards d'euros dans le programme nucléaire brésilien. en échange, évidemment, de la concession de l'exploitation d'uranium à l'entreprise Orano, anciennement Areva, une entreprise française donc. Actuellement, le Brésil n'exploite qu'une seule mine d'uranium. Elle est localisée dans l'état de Bahia, au nord-est du pays, et elle produit environ 400 tonnes par an. La France, selon cet accord, investira également pour permettre le partage de connaissances ainsi que la transformation de l'uranium sur le sol brésilien. En parallèle, l'entreprise française Framatome a renouvelé également son engagement à rénover la centrale nucléaire brésilienne Angra 1 et elle s'est aussi engagée à participer à la construction d'une nouvelle centrale qui s'appellera Angra 3. Celle-ci est en travaux depuis plus de 10 ans et elle était annoncée être opérationnelle pour 2028. Elle est censée pouvoir alimenter 4,5 millions de foyers brésiliens en électricité. C'est donc les ingénieurs français qui viendront a priori filer la main pour arriver au bout du chantier, mais je ne sais pas si c'est forcément leur spécialité de terminer les chantiers. De son côté, du côté brésilien, on pousse également pour que la France augmente sa participation dans la construction et le transfert de technologies pour les constructions de sous-marins nucléaires, les sous-marins qui s'appellent ProSub. C'est un accord qui remonte à 2008, hein, il avait été conclu à cette époque, et prévoyait la construction de 4 sous-marins conventionnels et un engin à propulsion nucléaire. Jusqu'ici, la France s'est montrée plutôt réticente à s'impliquer directement dans la partie nucléaire du sous-marin, en raison des accords de non-prolifération. D'ailleurs, l'intérêt de la France pour l'uranium brésilien n'a rien de nouveau, hein. On peut remonter aux années 60, dans lesquels le général de Gaulle traversait l'Atlantique dans l'espoir de conclure un accord, mais à l'époque sans succès. Bon, depuis, il s'est passé pas mal de choses, hein, notamment le coup d'État au Niger, qui est le premier fournisseur d'uranium de la France et qui a basculé dans la sphère d'influence russe depuis juillet 2023. Ce coup d'État a donc un petit peu incité Paris à se remettre en recherche de nouveaux fournisseurs. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des influences des guerres sur la politique énergétique française, cette annonce de l'accord avec le Brésil intervient alors que le 28 mars dernier, le ministre délégué à l'industrie et à l'énergie expliquait justement envisager sérieusement de construire en France, sur le territoire français, un site de conversion et d'enrichissement d'uranium, uranium de retraitement en France, puisque actuellement c'est en Russie que ça peut se faire, c'est le seul pays qui dispose d'une telle usine. Et on y convertit de l'uranium pour ensuite qu'il puisse être utilisé dans les centrales nucléaires. Malgré l'invasion russe en Ukraine, les livraisons d'uranium entre la Russie et la France étaient toujours en cours. C'est d'ailleurs quelque chose qu'avait dénoncé l'ONG Greenpeace en 2023. Pour l'instant, ni les responsables français ni les officiels brésiliens n'ont répondu aux questions du journal qui voulait en savoir un petit peu plus sur la réalité de cet accord. Allez, une dernière brève, il est question de médias avec cette charte de la traçabilité de l'information qui est en train de voir le jour et dont Libération et d'autres médias d'information français seront les premiers signataires. Réseaux sociaux, sites internet, vidéos en streaming, chaînes d'infos en continu. L'information, vous le savez, circule à toute vitesse sur tous les réseaux et tous les écrans, au point parfois d'épuiser le lecteur ou l'internaute. Face donc à la vitesse de diffusion et de reproduction de ces informations, il est de plus en plus dur d'identifier la source d'une actualité, vous vite noyer dans le bruit médiatique, et donc d'aller vérifier notamment si tout ce qu'on lit est vrai. Identifier quels médias et quels journalistes sont donc à l'origine d'une info, c'est s'assurer de sa fiabilité, si en tout cas on fait en tout cas confiance aux journalistes, savoir qui s'est donné les moyens par exemple de constater les faits de visu qui étaient vraiment sur place, qui a investi dans de longues et coûteuses enquêtes, tout ça peut apporter au lecteur la capacité d'accorder ou non sa confiance à l'information. Mais identifier la source médiatique, c'est aussi connaître d'ailleurs les conditions de production de cette information. Est-ce que dans la rédaction de ce journal, il y a des journalistes professionnels ou pas? Est-ce qu'on respecte les règles du métier et les conditions sociales de son exercice? Au-delà de cette question donc essentielle de la confiance du public, les entreprises de presse elles-mêmes et les journalistes ont besoin de savoir justement quels sont ceux qui reproduisent leurs informations pour notamment se protéger de tout abus de reproduction ou de pillage de leur contenu dans un environnement médiatique très concurrentiel. Alors que prévoit cette nouvelle charte justement? Eh bien c'est qu'un média qui reproduit l'information d'un confrère et concurrent doit désormais citer dès le premier paragraphe la source de cette information. Moi je le fais parfois à la fin moi, mais bon, on va dire qu'on n'est pas, je pense, dans le collimateur de la concurrence des médias Radio Escapade. Dans le cas d'un article numérique, d'ailleurs, le média qu'il reproduit doit aussi renvoyer vers l'article d'origine. Et enfin, s'il ne fournit pas de travail journalistique supplémentaire, donc s'il fait juste reprendre l'info, il devra limiter sa reprise d'information à 25% de la taille d'origine de l'article. Ce sont des règles d'une charte, hein, donc les signataires s'engagent à le faire. Il n'y a évidemment aucune loi qui les y oblige pour l'instant. Mais cette charte, en tout cas, est proposée à la signature pour l'ensemble des médias, hein, presse, audiovisuel, public ou privé, médias en ligne. Eh bien, ces règles seront donc protectrices autant des journalistes et des éditeurs que de leurs lecteurs qui auront donc accès à la source plus simplement. Dans une société où prospèrent les fausses informations, où les commentaires prennent si rapidement la place des faits, cette charte des médias français est un engagement fort au service des citoyens soucieux de leur juste information et de l'ensemble de la société. Elle consolide l'édifice de la liberté d'informer, une liberté qui ne vaut que si l'honnêteté et le professionnalisme ont été à la base de la production de l'information. C'est ainsi que termine cette charte que j'ai trouvée dans les colonnes de Libération et qui envoie quand même des gros clins d'œil à l'actualité, notamment de ce qui se passe du côté de la commission parlementaire d'enquête pour la pluralité des médias où on a pu voir Cyril Hanouna ou Yann Barthès sur pas mal de vidéos justifier un petit peu des choix éditoriaux de leurs émissions. Donc voilà, ça ne tombe pas par hasard. En même temps, je pense tout ça.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, il est largement l'heure de boucler ces nouvelles du monde. On a déjà bien dépassé. Bonne soirée, bon après-midi, bonne suite en tout cas à l'écoute de Radio Escapade. Comme nous sommes jeudi, vous aurez rendez-vous à 14h avec Écriture Dessinée et Bruno pour parler BD et autres romans graphiques. Ensuite, de la musique. Et en soirée, eh bien, je pense qu'il y a des DJ certainement qui viendront aux platines de Radio Escapade, mais je ne sais pas qui c'est. En tout cas, ça sera de 17h à 19h, voilà, avant les rediffs de l'agenda et des nouvelles du monde. Bye bye, on se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.